Oui, merci Daddy. Et pour ce rappel de cette belle parole de Paul dans Romains, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La parole, Jésus, le message de l'Évangile. Sachons l'écouter plus que l'entendre. Ouais, l'entendre et l'écouter, les deux. On est dans une campagne, on appelle beaucoup, c'est pas une campagne législative, c'est une campagne, on va dire, spirituelle de l'Union des Églises Évangéliques Libres de France sur écoute, l'écoute, l'écoute de Dieu principalement. Mais il y a des implications sur l'écoute les uns des autres, avec comme fil conducteur cette parole que le petit Samuel prononce, parle, c'est ton serviteur, écoute, avec cette petite image de Samuel, dont j'ai déjà fait la description il y a 15 jours au week-end de rentrée, et j'ai dit, c'est fameusement kitsch quand même comme image là, avec ces petites boucles, etc. Mais cette image a accompagné mon enfance, quand j'étais dans l'église réformée de Fontainebleau. Mais Marc, Philâtre et moi, on est allés rendre visite au Langlade, à Paulette et Louis Langlade, 93 et 94 ans, vendredi après-midi. Et quand on fait des visites, moi j'aime bien parler de l'Église et parler de justement de cette campagne qu'on avait lancée. D'ailleurs, Louis l'avait lu sur Internet, enfin il avait vu qu'on avait commencé cette campagne, il se tient bien au courant. Et quand j'ai parlé de Samuel, Paulette s'est levée. Paulette, 93 ans, elle s'est levée, et puis elle est presque aveugle, mais elle s'est levée et a pris dans la bibliothèque la photo de Samuel qu'elle avait là. Et manifestement, cette photo a accompagné pas mal, cette peinture a accompagné pas mal d'entre nous, et je me suis souvenu avant d'y aller ces dernières semaines de cette petite comptine chrétienne qu'on chantait aussi quand j'étais petit pour le « Parle, parle Seigneur, ton serviteur écoute, je dis ton serviteur, car enfin je le suis, je veux... » Qui connaît ? Eh ben Paulette connaissait. 93 ans. Je me suis pris un coup de vieux là. En bref. Et par le Seigneur, ton serviteur écoute. Et la première semaine, c'était qu'on a lancé le jour du week-end, enfin le week-end de rentrée. Dieu parle. Ben oui. Quand on parle d'écoute, il faut bien que quelqu'un parle. Et on a vu que Dieu parlait depuis le commencement avec cette parole créatrice. Dieu dit dans le livre du commencement de la Genèse. Et il continue de parler à travers les prophètes. Et puis dans l'épître aux Hébreux, il est dit, après avoir parlé de diverses manières par les prophètes, Dieu nous parle maintenant par le Fils, par Jésus, la parole faite chair. Par la bonne nouvelle de l'Évangile. Dieu parle, Dieu communique et il se communique en Jésus-Christ. Dieu n'est pas un Dieu silencieux ni lointain, comme l'écrivait Francis Schaeffer à l'époque, Dieu ni silencieux ni lointain, mais c'est un Dieu qui parle, qui communique, à condition qu'on écoute, évidemment. Et la deuxième semaine, l'accent était mis sur l'écoute, et Marc, notre stagiaire, je vais... vous le connaissez tous maintenant, a parlé de cela avec l'insistance sur l'écoute. Et Samuel, qui n'est pas dans une posture d'écoute, c'est pas une posture l'écoute, mais une mise à disposition, disponibilité, humilité de celui qui veut écouter Dieu. Faire silence pour écouter Dieu qui parle. Parfois dans un son subtil, comme il parle à Élie, près du mont Horeb. Et puis, troisième semaine, c'est aujourd'hui, premier jour de la semaine, le dimanche, hein, et non pas le dernier. Donc, troisième semaine, écouter et prendre position. Alors, on a des dossiers, hein, il en reste encore, on en a déjà distribué 45, il en reste une dizaine qu'on a réimprimé. Si vous n'avez pas votre dossier, vous pouvez en prendre un par famille ou par personne à la sortie. Mais le texte proposé pour la prédication, juste un texte proposé, qui parlait de... C'est 1 Samuel 2 qui nous parle des fils d'Élie. Je ne l'ai pas trouvé très inspirant. Et les fils d'Élie, avec un H là, ne sont pas très inspirants. Et je n'ai pas vu non plus, par rapport à ce texte, et il n'est pas donné d'explication, de lien par rapport au titre « Prendre position, écouter et prendre position ». Prendre position semaine 3. Et puis j'en ai parlé à Marc vendredi. Et puis lui non plus, il a pas vu de lien. Donc je me suis dit bon ben c'est pas moi seulement. Mais j'ai trouvé autre chose qui nous parle de prendre position. Un texte bien plus tard, qui arrive bien plus tard. La royauté est installée. Vous savez, Samuel, le jeune Samuel, il va devenir grand et il va installer Saül. Et il va installer David. Et puis il y aura Salomon. Et puis il y aura le fils de Salomon, Roboam et Jéroboam. Et le schisme entre le nord, Israël, capitale, Samarie, et le sud, Juda, sans S, la Judée autour de Jérusalem, Israël, Juda, et puis des petites guéguerres entre les deux. Et nous avons un roi qui s'appelle Josaphat et qui est un bon roi. Vous savez, dans le livre des Chroniques ou des rois, il fit ce qui est bien aux yeux de l'Éternel, c'était un bon roi. Et puis le roi qui suit, malgré la bonne génétique ou malgré la génétique et l'hérédité, est un mauvais roi. Et là, c'est un bon roi. Il a fait des réformes spirituelles. Josaphat, il a installé une certaine paix dans le pays. Et son histoire, l'histoire que l'on raconte dans 2 Chroniques 20, est vraiment intéressante. Prédication, écouter et prendre position. Les Moabites et les Ammonites, renforcés par des Maonites, se mirent en route pour faire la guerre à Josaphat, roi de Juda. On vint prévenir Josaphat en ces termes, « Une vaste armée est en train de marcher contre toi d'au-delà de la mer morte et d'Édom. » Josaphat prit peur et décida de consulter l'Éternel. Josaphat se tint debout avec l'assemblée des gens de Juda et de Jérusalem dans le temple de l'Éternel. Il pria ainsi, « Éternel, Dieu de nos ancêtres, n'es-tu pas Dieu habitant dans le ciel et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des peuples ? Du fond de notre détresse, nous implorons ton secours, alors tu écouteras et tu sauveras. Car nous sommes impuissants pour résister à cette immense armée qui vient nous attaquer et nous ne savons que faire. Mais nous tournons nos regards vers toi. Tout Juda, femmes et enfants y compris, se tenaient debout devant l'Éternel. Alors l'Esprit de l'Éternel vint sur Yahaziel, fils de Zacharie, au milieu de l'assemblée. Yahaziel dit, soyez attentifs, vous tous qui habitez Juda et Jérusalem, et toi aussi, roi Josaphat. Voici ce que vous déclare l'Éternel. Ne craignez rien et ne vous laissez pas effrayer devant cette immense armée, car cette guerre n'est pas votre affaire. C'est celle de Dieu. Demain matin, marchez contre eux, ils vont gravir la montée de la fleur, vous les rencontrerez au bout du défilé à l'entrée du désert de Yeruel, vous n'aurez même pas à combattre. Contentez-vous de prendre position et de vous tenir là. Et vous verrez, l'Éternel vous accordera la délivrance. Le lendemain matin, ils se levèrent tôt et les hommes se mirent en route pour le départ de Tekoa. Au moment du départ, Josaphat leur adressa la parole, « Écoutez-moi, hommes de Juda et habitants de Jérusalem, faites confiance à l'Éternel votre Dieu, et vous serez invulnérables. Faites confiance à ses prophètes et vous aurez la victoire. » Ils s'étaient concertés avec le peuple et avaient placé en tête de l'armée des musiciens pour louer l'Éternel et la majesté de sa sainte personne. Ils se mirent en route devant les soldats en armes en chantant « Louez l'Éternel, car son amour durera jamais. » C'est un texte extraordinaire, n'est-ce pas ? D'abord, un défi de taille. Vous l'avez, on l'a lu, je l'ai lu, j'ai insisté dessus que plusieurs fois on parle d'une immense armée, une vaste armée, une énorme armée qui nous fait penser aux géants. J'ai remis l'image d'il y a 3 semaines, 1 mois, fin août, où on a parlé des espions qui reviennent. Au moins 10 d'entre eux sur les 12 disent il y avait des géants dans le pays promis et on était à leurs yeux comme des sauterelles. On a parlé du complexe de sauterelles, c'est un petit peu la même chose. Et là, il n'y a pas vraiment de géants, mais l'armée est immense. L'armée est gigantesque, qui marche contre eux est gigantesque. Mais la peur est la même. Ou le sentiment de déclassement, comme on dit aujourd'hui, est un peu le même. On se sent déclassé. On se sent impuissant. Pourtant, la réaction n'est pas identique. Josaphat va rassembler le peuple. Et vous avez vu l'insistance dans le texte, hommes, femmes et enfants, y compris femmes et enfants. Et il cherche l'Éternel. Il se met, on va le dire, à l'écoute. C'est pas la même chose que le petit Samuel qui se met sur ses genoux avec sa belle petite robe là de lin. Josaphat interpelle un peu Dieu. N'es-tu pas le roi du ciel? Alors c'est pas faire chanter Dieu, c'est pas du chantage affectif ou du chantage spirituel, mais il l'interpelle. Je m'attends à toi, que tu sois fidèle à tes promesses, les promesses que tu as faites à mon arrière-arrière-grand-père Salomon. 2 Chroniques 7, verset 14. « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et me cherche, je l'exaucerai des cieux et son pays je guérirai. » On le chante parfois, ce chant. Et donc, Josaphat fait référence aux promesses faites à son arrière-arrière-grand-père, Salomon. « Si mon peuple s'humilie, prie et te cherche, tu l'exauceras des cieux. » Il se met à l'écoute, on va dire. Il se met en attente, il est dans l'expectative de ce que Dieu va faire. Ils sont dans le temple, le lieu de la présence de l'Éternel. Se mettre à l'écoute, je m'attends à toi. Et puis, Dieu parle. L'Esprit descend sur un prophète inconnu au bataillon, Yahaziel, et il est dit, voici ce que déclare l'Éternel, voici la parole de Dieu, la déclaration de l'Éternel. Dieu parle, Dieu communique, Dieu parle à son serviteur, en l'occurrence Josaphat, et le peuple qui sont à l'écoute. Et Dieu va dire 2 choses à Josaphat et à tout le peuple. D'abord, il va dire, ne craignez rien et ne vous laissez pas effrayer devant cette immense armée, car cette guerre n'est pas votre affaire, c'est celle de Dieu. C'est pas votre affaire, les gars. It is not your business. C'est pas votre affaire. Dieu invite le peuple, son peuple, à lâcher prise, comme on dit aussi aujourd'hui. Lâcher prise. Ce n'est pas ton affaire. Et c'est une réponse tellement magnifique. Et c'est celle de Dieu. Dieu nous demande de lâcher l'affaire, de lâcher prise sur tout ce que nous ne pouvons pas contrôler et qui nous paraît donc incontrôlable. Et pour cette raison même, nous fait tellement peur. Et on s'aperçoit que lâcher prise par rapport à une affaire qui nous dépasse, c'est aussi lâcher prise avec la peur qui va avec. Josaphat, on le voit à la suite du texte, n'a plus peur, en tout cas beaucoup moins, parce que c'est lui qui va dire au peuple, n'ayez pas peur, un peu plus tard. Et le conseil est bon pour nous tous, n'est-ce pas? Pour tous les croyants et ceux qui cherchent aussi à croire, Dieu parle et nous dit de lâcher prise, d'arrêter de se crisper, de se raidir, de s'arc-bouter, de défendre le beefsteak de sa vie. Et il nous dit non, fais confiance à Dieu, lâche le trapèze là. Fais confiance, nous dit Dieu, dans toute la vie. Et dans toute cette vie, on s'aperçoit que tout est une question de foi. Alors, ce lâcher prise ne consiste pas à ne rien faire, ou au pire, faire l'autruche, c'est-à-dire mettre sa tête dans le sable. J'ai jamais vu d'autruche qui le faisait, mais on dit ça. Ni il ne s'agit pas non plus de fuir. Fuir en avant, beaucoup de gens fuient en avant. Parfois, enfin le plus souvent, on fuit en arrière quand même. Ou de filer à l'anglaise, pardon pour les Britanniques qui sont ici, je ne sais pas pourquoi on parle de filer à l'anglaise, ça fait partie de l'entente cordiale entre nos deux pays. Et il n'est pas non plus, il ne s'agit pas de se dérober. Donc Dieu a une seconde parole pour Josaphat et pour le peuple, et je souligne le peuple. Et là, on rejoint le thème de cette troisième semaine, puisque Dieu va dire à Josaphat et au peuple qui est à l'écoute de prendre position. Vous n'aurez même pas à combattre. Contentez-vous de prendre position et de vous tenir là. Incroyable idée, encore mieux que la première, c'est pas votre affaire. Là, contentez-vous de prendre position. Extraordinaire. J'ai une histoire à vous raconter. On a habité près des Pyrénées pendant un petit temps, on était à Pau, et un ami de l'église qui travaillait chez Total, vous savez que le quartier général de Total est à Pau, mais qui faisait des randonnées, il avait programmé une randonnée avec son garçon, une randonnée père-fils de 1200 mètres de dénivelé. Et puis ils partent, c'est lui qui raconte, ils partent, et puis ils n'ont pas fait 300 mètres de dénivelé que là il y a un berger qui les arrête et qui dit « Écoutez, j'ai besoin de vous, mon troupeau est dispersé, il faut qu'on le rassemble. » Alors mon ami Frédéric hésite un peu parce que ils font une randonnée père-fils, voilà, la priorité c'est de parler à son fils post-adolescent là. C'est compliqué, et puis il se dit, il voit les brebis par là, il se dit, ça va nous prendre des plombes, et puis, mais il se dit, bon, je fais partie de l'église évangélique libre de Pau, il faut que j'ai un bon témoignage, et donc il décide d'aider le berger. Alors ils enlèvent tous les deux, Guillaume et Frédéric, ils enlèvent leur sac à dos, leur laine polaire, parce qu'ils se disent, le berger leur dit, non, il suffit de vous mettre là, et il place Frédéric là, et à une quinzaine de mètres, et il place Guillaume là. Il suffit de prendre position, de vous tenir là, et moi je fais le reste avec les chiens. Et en 15 minutes, le troupeau était rassemblé. Il suffisait qu'ils se tiennent là, et le berger a fait le reste. Il suffisait qu'ils se tiennent là et le berger a fait le reste. Rester là et prendre position, mais pas dans le vide non plus. Les Israélites vont prendre position et vont être appelés à tenir leur position sur un terrain solide et bien stable. Et quel est ce terrain solide et bien stable? C'est justement la promesse que Dieu leur a faite qu'il va combattre pour eux. C'est la promesse, et croire ou s'établir sur une promesse, croire en cette promesse, ça s'appelle comment ? Ça s'appelle la foi. Ce terrain solide, c'est la foi dans les promesses de Dieu, la foi d'Abraham et tous les héros de la foi, ou la confiance. Et d'ailleurs, le récit parle du passage de la peur au verset 3 à la confiance au verset 20. « Ayez confiance, dit Josaphat, car lui a pris confiance. » Prendre position sur sa foi, c'est ce que déclare l'Éternel. C'est la parole de Dieu pour nous prendre position sur un terrain solide. Alors, ils vont faire aussi quelque chose d'assez exceptionnel. Ils vont placer les chantres, les chanteurs, l'équipe de louanges en tête de l'armée. On a Daddy, Yvonne, Mathias, Fabrice, là, en tête de l'année. Et puis tous les chanteurs, j'en oublie, Laurence, etc. En tête de pont, avant tout. Et ils chantent non pas des chants de victoire, c'est nous qu'on est les plus forts, ou c'est nous qu'on a gagné. Ils chantent des chants d'amour. Ils chantent des chants de l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu, car son loué l'Éternel, car son amour durera toujours. Ils prennent position sur cet amour inconditionnel et éternel de Dieu. Et c'est comme cela que les Israélites ont gagné cette bataille sans combattre, parce que ce n'était pas leur affaire. Dieu leur a dit de prendre position et ils l'ont fait. Et je pense que Dieu nous parle aujourd'hui également, pour autant que comme Josaphat, nous nous attendions à lui. Seigneur, je m'attends à toi. L'armée est immense. Et il nous dit simplement, contente-toi de prendre position. On a tous des batailles à mener dans la vie. Je vais pas les... Vous pouvez penser peut-être à la vôtre. Et je me dis que il y a pas que des batailles dans la vie, mais que la vie elle-même est une bataille. Où on est parfois en mode survie. Où on se bat non pas pour sa vie, mais pour sa survie. Et je parle pas que de la survie matérielle. C'est une réalité pour beaucoup, mais... On se bat pour survivre ou simplement pour exister. J'entends beaucoup ces derniers temps autour de moi des gens qui se posent des questions sur leur légitimité, la bataille de la vie, la question de la légitimité. Et ils me disent, pour une raison ou pour une autre, pour une fonction ou une autre, je me sens pas légitime. Vous n'avez pas vu ça, entendu ça ? La légitimité. Qui est pas loin de la question de l'identité. Qui suis-je vraiment? Comment justifier mon existence? Nous étions à une pastorale, PACA, des églises libres, mardi dernier, avec le même Marc. Je l'aurais cité 4 fois. Mais c'est intéressant, on a fait un tour de table, et là il y avait un tout jeune pasteur qui a commencé depuis 3 semaines. Je vous dirai pas dans quelle église. Il a commencé début septembre. Qui nous parlait du syndrome de l'imposteur, qu'il ressentait le syndrome de l'imposteur, mais il le disait avec un grand sourire, mais c'est que parfois, dans son rôle de pasteur, il se sentait un petit peu imposteur. Je l'ai entendu ici aussi, et à d'autres reprises. Et nous, les vieux pasteurs, parce que j'en suis, on la rassure en disant, tu sais, et il y a un pasteur qui parle à la retraite, je vous dirai pas son nom, qui a renchéré en disant, oui, mais nous aussi, hein, ça nous arrive. Le syndrome de l'imposteur. Ou le problème de légitimité ou d'identité, suis-je à ma place dans ce monde? La bataille de la vie par rapport à l'existence. Et, cette bataille de légitimité peut, enfin, cette bataille de la vie, de ces questions de légitimité et d'identité peut aller loin. Et Dieu dit à ses serviteurs et ses servantes qui sont à l'écoute, contente-toi de prendre position. Contente-toi d'être là. Et on n'est pas les seuls à se poser la question, c'est pas une question du 21e siècle, même si elle se pose avec beaucoup plus d'acuité, mais Paul, déjà, l'apôtre Paul semble répondre à cette question de légitimité, d'identité aux chrétiens qui sont dans la toute petite église de Colosse. Vous vous souvenez, on en a parlé il y a 4-5 ans, et il leur rappelle leur position en Christ, et on va faire un petit rappel, notre position en Christ. Voilà ce que dit Paul, vous avez tout pleinement en Jésus-Christ, en jaune, en se positionnant en Jésus-Christ, au datif en grec, le lieu, le locatif, je me positionne en Christ, vous avez tout pleinement en lui, vous êtes bien positionné en Christ. Et puis, deuxième phrase, votre vie est cachée en Christ. Alors, on ne joue pas à cache-cache avec Jésus, mais c'est la protection. Votre vie est protégée en Christ, en lui. Dieu nous voit à travers Jésus-Christ. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit des filles et des garçons. Moi, je vous appelle comme ça, et je m'appelle. Des filles et des garçons, comme des filles et des fils adoptifs. Il nous voit comme des filles et des garçons qu'il aime d'un amour pour toujours, comme il le chantait, en tête de pont, en tête d'armée, à l'époque de Josaphat. Et plus loin, il va parler du positionnement, l'apôtre Paul, parce qu'il est inspiré comme jamais personne ne l'a fait avant lui. Ça, c'est l'inspiration. Il va dire, cette phrase extraordinaire, « Mais vous êtes aussi ressuscité avec le Christ. » Et vous notez le présent, vous êtes ressuscité avec le Christ. Et plus loin, il dit, et ça vient d'en haut, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. Vous notez aussi que ça parle du présent. Ça m'est pas arrivé souvent, mais je me souviens qu'un ami pasteur, on parlait, et puis il me dit, mais comment parler de ces passages? Parce que on attend la résurrection finale. On n'est pas ressuscité pour l'instant. Et, je dirais, une fois n'est pas coutume, j'ai été inspiré et je lui ai dit, peut-être parce que j'avais lu d'autres trucs avant, je m'en souviens plus, mais que cette idée de résurrection déjà maintenant, c'est une question de point de vue. Alors qu'on est ressuscité, alors qu'on est assis dans les lieux célestes, on a un point de vue différent sur ce qui se passe. On a une perspective différente sur ce qui se passe dans le monde, dans sa vie aussi. Et les géants de ce monde, ou les vastes armées de ce monde, paraissent beaucoup moins grandes, beaucoup plus petites. Une histoire de positionnement, de perspective, une histoire de prendre position en Christ. Écoute, l'Éternel le déclare. Ce n'est pas ton affaire. Contente-toi de prendre position et d'être là, et de lui faire confiance. Notre position est inébranlable parce que le fondement est inébranlable. Il est le rocher des siècles et il est aussi ce berger. Vous vous souvenez, prendre position et le berger fait le reste dans mon histoire des Pyrénées. Vous vous souvenez, le premier chant qu'a introduit Dadi, Yahvé, le bon berger du psaume 23. Notre fondement, c'est ce bon berger. Et j'aime cette parole de l'évangile où Jean, ou Jésus, de l'évangile de Jean, pardon, où Jésus parle de lui comme le bon berger, Jean 10, et il va dire à un moment, « Mes brebis reconnaissent ma voix. » Dans le dossier, on s'est posé la question, quand on entend une voix, est-ce que c'est toujours Dieu? Comment faire le tri avec toutes ces voix intérieures, extérieures? Comment savoir que ça vient de Dieu? En voilà une question qu'elle est bonne. Mais Jésus dit, mes brebis reconnaissent ma voix. Mes brebis, celles qui m'appartiennent, celles qui sont venues, celles qui sont à l'écoute, celles qui s'attendent à moi, celles qui veulent bien faire partie de ce troupeau, de mon troupeau, celles qui veulent bien se laisser conduire. Voilà une belle promesse. Mes brebis reconnaissent ma voix. Et moi, j'ai envie de reconnaître la voix de mon berger. M'approcher, m'attendre à lui, grandir dans la foi, m'approcher de lui, grandir en lui, être en lui. Le voulez-vous ? Amen.